à présent...
Frédéric Worms.
À présent, ce soir, de quel droit la précarité, avec Claire Hédon, défenseur des droits, et Guillaume Leblanc, philosophe. À présent, ce soir, autour de la question de quel droit la précarité. La précarité, ce n'est pas une incertitude comme les autres. La précarité, c'est un état de fragilité tel que même si des réponses existent, comme le droit, comme les droits, on n'est plus en capacité d'y avoir recours. C'est quand le lien même avec le monde social est menacé. Y répondre, c'est préserver ce lien pour tout le monde, surtout quand, comme aujourd'hui avec la pandémie, la précarité semble s'aggraver et se répandre. Comment en parler mieux, ce soir, qu'avec Claire Hédon, qui était présidente d'ATD Quart-Monde avant de devenir la défenseur des droits, notre défenseur des droits en France, et avec Guillaume Leblanc, professeur de philosophie à l'Université de Paris, qui travaille en philosophie sur la vie précaire et qui a aujourd'hui lui-même un projet de philosophie sociale avec ATD Quart-Monde. De quel droit la précarité? Je suis très heureux de vous accueillir ce soir l'un et l'autre. Bonsoir Claire Hédon.
Bonsoir Frédéric Worms.
Merci d'être là. Bonsoir Guillaume Leblanc qui est à distance.
Oui, bonsoir.
Très présent, tout à fait présent, aussi présent que l'un et l'autre, donc Claire Hédon, Guillaume Leblanc, je suis très heureux de vous accueillir pour parler de ce sujet. Je voudrais commencer par une question pour vous, Claire Hédon. Vous occupez aujourd'hui une fonction au titre un peu mystérieux quand même encore, défenseur des droits, et en même temps on a l'impression qu'il y a un lien intime entre le nom même de cette fonction, le ou la défenseur des droits, et la précarité telle que je l'ai présentée. Puisque quand on dit défenseur des droits, Claire Hédon, on a l'impression que les droits existent, mais que ça ne suffit pas. Il faut quelqu'un pour les défendre. Et est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée qu'il y a ce lien avec la précarité, que justement, plus qu'ailleurs, mais un peu partout, finalement, les droits en tant que tels ne suffisent pas. Il faut une défenseur des droits, Claire Hédon.
Tout à fait. J'ai bien aimé dire que vous disiez notre défenseur des droits, mais c'est vraiment ça, et c'est avec toute une institution. Et oui, il y a des personnes qui ont des difficultés à accéder à leurs droits. Pour une majorité de personnes, les droits, finalement, sont relativement facilement accessibles. Mais pour des personnes qui sont victimes de discrimination, des enfants, c'est toute la question des droits des enfants, des personnes précaires que vous avez citées, des personnes en situation de handicap, oui, il y a des gens qui ont du mal à faire valoir leurs droits, et nous, institution du défenseur des droits, on est là pour les rétablir dans leurs droits.
Vous êtes là pour ça. Votre mission, je l'ai lu sur le site, hein, comme tout citoyen peut et devrait le faire. Le défenseur des droits, d'ailleurs, c'est au masculin.
Vous Alors, l'institution a gardé son nom masculin, mais je suis la défenseur des droits.
Vous êtes la défenseur, on peut le dire au féminin, veille au respect des droits et libertés, donc on pourrait croire que c'est, et c'est le cas aussi, respect des droits et libertés, vous alertez aussi sur le gouvernement, par exemple.
Sur les états d'urgence, voilà. Sur des choses comme ça, exactement. Sur
au
des
hasard,
de
sur
liberté,
les états d'urgence, on va en parler. Mais en même temps, veille au respect, c'est aussi justement à l'accès, c'est-à-dire aussi de la part des citoyens eux-mêmes.
Oui, parce qu'en fait, on a un système de protection sociale qui fonctionne plutôt bien, mais il y a un certain nombre de personnes pour qui ça fonctionne mal, qui n'arrivent pas à accéder à leurs droits et qui, du coup, saisissent le défenseur des droits. Alors, à plusieurs niveaux, hein, ça peut être, on a 520 délégués territoriaux qui sont, du coup, comme ça s'appelle,
c'est
dans
énorme,
les territoires,
beaucoup,
énormes,
hein, ouais.
qui sont des bénévoles et qui accueillent les personnes qui viennent, qui ont souvent des difficultés avec les services publics ou qui ont été victimes de discrimination ou qui ont eu des soucis avec les forces de l'ordre, et eux-mêmes traitent 80% des réclamations que nous recevons. C'est 103 000 réclamations par an. Et 80% sont traitées par ces délégués territoriaux, et une autre partie est traitée au siège par des juristes. Mais effectivement, enfin, j'aime beaucoup votre question de quel droit la précarité. Mais parce que d'abord, la précarité, la pauvreté, c'est une atteinte au droit. C'est un non-accès au droit.
C'est pas seulement un état de manque de moyens.
Voilà,
finalement.
Exactement. On le définit beaucoup en termes de moyens financiers. Vous savez qu'en France, on considère que le seuil de pauvreté est à 60% du revenu médian, un peu au-dessus de 1060 euros. Et il y a à peu près 14,3% de la population française, plus de 9 millions de personnes qui sont dans cette situation. Mais ça ne dit pas ce qu'est la pauvreté. Et ce qui vraiment définit la pauvreté, c'est un non-accès aux droits. Que ce soit à une éducation de qualité, que ce soit au logement, que ce soit au travail, à la culture, à l'accès à la santé. Et c'est ça la réalité. Donc, de quel droit la précarité? Oui. J'aime bien parce que ça remet tout de suite la question de la précarité au niveau du droit. Et puis, je trouve que ça nous renvoie aussi, finalement, moi, je pense que accepter une démocratie où il y a autant de pauvreté, en fait, c'est pas acceptable. Justement.
Oui, c'est vrai qu'en proposant ce titre, j'y voyais deux sens, évidemment. Notre indignation spontanée, la précarité comme injustice, et bien sûr aussi cette définition de la précarité par les capacités des sujets qui en sont affectés, notamment d'accéder aux droits. Alors, je crois que là, ce que vous venez de dire, Claire Hédon, va sûrement concorder avec votre approche. Guillaume Leblanc, vous-même, depuis longtemps, depuis vie ordinaire, vie précaire, hein, vous avez été un des premiers en philosophie à travailler sur cette notion, avec peut-être Judith Butler aux États-Unis. C'était en 2007. Vous aviez déjà défini, finalement, Guillaume Leblanc, la précarité par un état aussi de la subjectivité, finalement. Non pas seulement par des moyens objectifs, mais un état qui affecte les capacités subjectives de ceux qui y sont plongés, Guillaume Leblanc.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que j'avais essayé de définir la précarité comme un état social et mental un peu intermédiaire, disons, dans une typologie relativement idéale typique, un peu idéale comme ça, entre d'un côté un régime d'inclusion pure qui n'existe pas vraiment, et d'autre côté un régime pur d'exclusion qui n'existe pas non plus totalement ainsi. Pour moi, la précarité est une sorte d'état intermédiaire dans lequel on est à la fois inclus parce qu'on a encore quelques propriétés sociales, et en même temps par lequel on est en voie d'exclusion parce qu'il manque une propriété sociale fondamentale comme le travail, le logement, l'accès à la santé. Et effectivement, ces propriétés sociales manquantes, elles doivent, je crois, être traduites en droits fondamentaux à pouvoir les réclamer, à pouvoir s'en saisir. Et c'est là où, effectivement, votre expression « de quel droit à la précarité » est doublement intéressante. D'une part, parce que il s'agit de penser les droits comme des conditions de possibilité d'accès à des biens légitimes, à des propriétés sans lesquelles vivre est tout simplement impossible. Mais d'autre part, parce qu'il s'agit aussi de se demander quel droit on fait, quelle place on fait à ces vies, justement, qu'on appelle des vies précaires, et sur lesquelles le terme même de précarité joue souvent comme une sorte de grande catégorie, de grande étiquette négative.
Oui, c'est une étiquette négative et souvent assez vague. Et ce que j'entends tout de suite chez vous deux, hein, chez Claire Hédon et chez vous, Guillaume Leblanc aussi, c'est la volonté de la définir assez précisément. C'est-à-dire de ne pas avoir finalement une sorte de continuum un petit peu large et déjà très, très douloureux au fond de la pauvreté ou de la fragilité sociale, mais d'avoir il y a des seuils de pauvreté qui sont définis, je dirais, statistiquement. Et on pourrait dire qu'il y a une sorte de critère de précarité qui est un peu plus qualitatif. Qui est plutôt affecte quelque chose de fondamental dans la vie, Claire Hédon.
Je trouve que ce que Guillaume Leblanc a dit sur la question de l'exclusion, c'est aussi effectivement une définition de la pauvreté, un sentiment d'exclusion qu'ont les personnes de par leur pauvreté, entre autres, vous l'avez dit, par le non-accès au travail. Le travail, enfin, les gens le répètent très souvent, c'est un des moyens d'être inséré dans la société. Et puis, je trouve que ça nous renvoie aussi au regard qui est porté sur les pauvres et la pauvreté. Et en fait, je trouve qu'il y a beaucoup dans notre inconscient collectif, qu'est-ce que les personnes qui sont en situation de pauvreté ont raté dans leur vie pour se retrouver dans cette situation-là. Et moi, après 28 ans dans le mouvement ATD Carbonde, ma conclusion, c'est que c'est la société qui a raté quelque chose vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire, j'ai été très frappée, moi, quand je suis rentrée dans ce mouvement où on est tout de suite en contact avec des personnes en situation de précarité, puisque le but, c'est vraiment de travailler et d'essayer d'élaborer une pensée ensemble et sur qu'est-ce qu'on demande en termes de lutte contre la pauvreté, mais avec les
avec
personnes,
eux, on va y revenir, c'est très important, bien sûr.
Et c'est vraiment important. Et c'est ce que nous renvoyaient beaucoup, ce que renvoient beaucoup les militants Carmonde, c'est le sentiment d'être exclus de la société, le sentiment que leurs paroles ne comptent pas, qu'on ne les écoute pas. Il y a toute une étude qui a été menée avec le mouvement ATD Carmonde et l'université d'Oxford sur les dimensions de la pauvreté. Et il en ressort quelque chose qui est très intéressant sur l'empêchement d'agir. C'est-à-dire, on est dans une société qui empêche les plus précaires d'agir et de se prendre en charge, justement.
Mais alors justement, ce critère subjectif, qualitatif, d'un État qui empêche de recourir même à ses droits, il inquiète beaucoup. Il inquiète, on y reviendra aussi, parce qu'on a le sentiment que la pandémie, les crises globales vont le généraliser. Justement, Guillaume Leblanc, vous aussi, hein, la précarité, ça correspond un peu à ce que vous disiez et que Claire Hédon vient de reprendre, c'est pas une exclusion seulement objective, au fond. C'est pas seulement une mise à l'écart de fait par des privations de ceci ou de cela. C'est aussi cette expérience subjective. Est-ce que cette question du sentiment de précarité et de aussi d'abord d'écouter la manière dont il s'exprime vous paraît important à vous aussi, Guillaume Leblanc?
Oui, pour moi, c'est vraiment fondamental. Je pense qu'il y a une espèce de jugement comme ça qui circule dans la société, au fond, selon lequel la vie pauvre, si je résume, je le formulerai ainsi, selon lequel la vie pauvre est une pauvre vie. Et ça, c'est terrible. C'est-à-dire que quand on commence à penser que la vie pauvre est une pauvre vie, on écarte des vies pauvres tout ce qui l'ensemble de leurs rêves, de leurs critiques, de leurs pensées, finalement ce qui fait justement une vie pleinement humaine. Et on refuse d'appréhender l'humain dans la vie pauvre et du coup on fait basculer les vies ainsi perçues comme des vies qui ne se sentent plus appréhendées, ne se sentent plus appréhendées, donc ne se sentent plus reconnues par le monde dans lequel elles sont, de telle sorte qu'il y a une espèce de parcours que j'ai essayé de reconstituer dans plusieurs de mes textes, mais qui va du sentiment d'être inaudible, d'avoir perdu la voix à force d'avoir perdu toute structure auditive pour la prendre en considération, jusqu'au fait d'être invisible quasiment, c'est-à-dire au fond d'avoir perdu son visage. Et je dirais qu'il y a une espèce de trajectoire comme ça de malédiction sociale qui irait de la perte de la voix à la perte de son visage, et tout ça venant de ce qu'il y a des attendus sur ce que c'est au fond qu'une vie légitime. Une vie légitime, on s'attend à ce qu'elle ait un certain nombre de biens, un certain nombre de possessions, un certain nombre d'accès à des choses qui justement sont considérées comme normales. Or précisément, c'est justement cette capacité de vivre malgré tout qui caractérise sans doute les plus démunis, et l'enseignement des plus démunis, je crois que nous ne l'avons pas encore suffisamment médité, et sans doute on va y revenir pendant cette émission, j'imagine.
Oui, tout à fait, et il y a aussi quelque chose qui me frappe, là vous êtes quand même l'un et l'autre revenus très vite vers la pauvreté, qui est évidemment inséparable de la précarité, mais j'ai l'impression que dans la précarité, il y a encore quelque chose d'autre qui nous rattache aussi à la question que tout le monde partage aujourd'hui, qui est la question de l'incertitude, finalement, et qu'on s'identifie plus, je ne sais pas ce que vous en penserez l'un et l'autre, avec le sentiment de précarité, qui est un sentiment que ça peut arriver à tout le monde, qui est un sentiment quand même de se trouver... cette détresse-là est accessible, finalement, malheureusement accessible à tout le monde. Et alors que la pauvreté, c'est plutôt un état qui semble objectif, justement, un état où on est, parce qu'il définit les pauvres et les riches un peu comme des catégories a priori. La précarité, clair et donc, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose que tout le monde ressent comme un risque. Il y a moins cette sorte de catégorisation a priori, mais je me trompe peut-être, on dit les précaires quand même.
Oui, on dit les précaires, mais c'est une autre façon de dire les personnes en situation de pauvreté. Enfin, pour moi, c'est quand même synonyme de ça. Mais la question que vous posez sur la peur, elle est intéressante parce que je pense qu'il y a une partie de la population qui a peur de se retrouver dans cette situation-là. Je suis très intéressée par ce que vous avez dit, Guillaume Leblanc, sur l'invisibilité aussi, parce que on veut pas voir, c'est-à-dire que parce qu'en fait c'est quand même très dérangeant d'avoir cette pauvreté dans un pays aussi riche. Donc ça nous gêne, donc ils sont invisibles, mais on les rend invisibles, enfin on organise une société qui les rend invisibles. Je dirais qu'on voit qu'une petite partie de la pauvreté avec les personnes sans domicile, mais si je vous donne quelques chiffres, les personnes sans domicile, c'est les dernières études de la Fondation Abbé Pierre disent 300 000 personnes, et si
ce
on
qui
prend
beaucoup déjà,
c'est déjà énorme, c'est absolument énorme, mais si on prend les personnes qui vivent avec moins de 700 euros par mois, on est à plus de 2 millions, on est à 2 millions 200 000 personnes. Et effectivement, on veut pas voir cette partie-là. Est-ce que vous pouvez me permettre de citer ce que disait Michel Serres, parce que c'est une phrase que je trouve très intéressante. Il dit « Nous n'avons jamais vécu en démocratie dès le moment où nous laissons vivre à côté de nous des hommes détruits par la grande pauvreté. »
C'est une phrase effectivement très frappante et sur laquelle on va revenir, Claire Edon, parce qu'en tant que défenseur des droits et en tant que aussi, comme nous tous, disons, dans ce contexte aussi de la pandémie, j'ai l'impression que plus que jamais, cette question de la précarité ou de la pauvreté n'est pas marginale, au fond. Elle concerne tout le monde.
C'est ce que dit Serres, finalement. D'abord, ça nous concerne tous.
C'est-à-dire s'il y a cette expérience-là dans nos sociétés, toute la société... Et d'une certaine manière injuste. Et c'est aussi ça, de quel droit?
Et cette épidémie et cette crise a aussi rendu visible des personnes qui étaient invisibles, d'abord à plusieurs choses, hein, sur les taux de mortalité quand même en Seine-Saint-Denis, des communes plus pauvres, les chiffres ont été sortis, et plus impressionnants. Puis c'est eux qui ont continué à travailler parce qu'ils peuvent pas faire du télétravail et qui faisaient justement tout le travail de caissière dans les supermarchés, tous ceux qui ont des emplois à temps partiel. Et d'un seul coup, on a vu une partie de la population qui est souvent en contrat précaire, hein, qui se retrouve en situation très difficile pour l'instant, et ça les a rendus visibles. J'espère que ça va nous donner un petit électrochoc.
Vous êtes d'accord, Guillaume Leblanc, vous qui aviez écrit aussi un livre sur l'invisibilité sociale, êtes d'accord sur cet effet paradoxal de la crise, de la pandémie d'aujourd'hui?
Disons que la pandémie révèle effectivement un noyau de précarité énorme que tout corps social, en temps de non-crise, s'efforce de juguler, etc. Je dirais qu'aujourd'hui, on assiste à une espèce d'implosion-explosion de ce sentiment de précarité qui est lié à une incertitude des lendemains, qui est lié justement à l'incapacité de s'orienter totalement dans les formes de la protection sociale telles qu'elles sont données actuellement. Et par rapport à ça, c'est très intéressant parce que autant la pauvreté, bon, on a des définitions qui valent ce qu'elles valent, etc., qui peuvent être plus ou moins objectives par rapport à l'idée d'un revenu médian, etc.
Des chiffres, en fait. Mais ce qui est important aussi, il faut l'objectiver.
Voilà, exactement. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans le terme de précaire, c'est si on revient à la racine, finalement, étymologique du précaire, le précaire est précaire ce qui s'obtient par une demande, par une prière. Précaré, c'est en latin, c'est la prière des précaires.
C'est drôle, je me posais la question tout à l'heure, pardon de vous interrompre, et je me disais peut-être que c'est lié au care, aux soins.
Non, en fait, c'est vraiment précaré, c'est la prière, c'est-à-dire c'est le fait de faire une demande. Donc le précaire, au sens strict, et ça renvoie justement à la position de Claire Hédon, c'est justement celui qui fait une demande qui peut être une demande en termes de droit, par exemple. Donc c'est tout sauf un sujet qui est simplement immobilisé dans un état qui le définirait de manière purement immobile une fois pour toutes. C'est quelqu'un qui est en mouvement, c'est quelqu'un qui en demande, et notre société se doit de répondre à cette demande. Et la qualité de décence d'une société, c'est justement de savoir comment elle répond à la demande de précarité, à la demande des précaires.
Venant
justement
des précaires eux-mêmes. Mmh. Mais alors, justement, l'un et l'autre, vous creusez aussi un paradoxe, Claire Hédon en particulier, évidemment, puisque ces sujets dont le qualification même indique qu'ils font des demandes, parfois ne sont même plus en capacité même de demander.
Alors, c'est tout ce
c'est le
appelle
comble de la précarité, finalement.
Alors peut-être, c'est ce qu'on appelle le non-recours, c'est-à-dire toutes ces personnes qui ne bénéficient pas d'aide auxquelles ils auraient droit. Mmh. Et effectivement, la tendance est de penser que ce sont des personnes qui ne vont pas demander. Et si on étudie ça de plus près, c'est pas du tout ça, en fait. Ce sont des personnes qui demandent, mais les démarches sont tellement compliquées, ils ont tellement de bâtons dans les roues qu'ils n'y arrivent pas. Je vais vous donner un exemple. On vient de remettre, la semaine dernière, un prix de thèse, même en début de semaine, pardon, à Clara Deville, qui a fait une thèse sur l'impact de la dématérialisation du RSA en zone rurale. Et c'est absolument incroyable ce qu'elle montre, ce que déjà mon prédécesseur avait montré avec la dématérialisation, qui peut être une chance pour certains.
Oui, vous aviez fait un avis, le défenseur des droits a fait un avis là-dessus.
Ça peut être une chance pour certains, mais il y a des gens pour qui, de fait, ça les empêche d'accéder à leurs droits parce que ils n'ont pas de connexion Internet, ils n'ont pas d'ordinateur, ils ont toutes les peines du monde à remplir un dossier sur Internet, c'est pas si simple que ça. Et donc, ce qu'elle montre, elle donne les exemples, par exemple, d'une personne qui est à 15 km de la ville où il y a la caisse d'allocation familiale, qui y va pour demander le RSA. On lui dit, ben non, il fallait faire la démarche en ligne d'abord, donc repartez. Évidemment, il n'a pas d'ordinateur chez lui, donc compliqué de faire la démarche en ligne. Au bout du compte, il a attendu 1 an et 3 mois pour avoir le RSA. Pendant cette période-là, il est considéré en non-recours. Et donc, oui, vous voyez bien qu'il a voulu demander. Et donc, et ça, on l'a. Et nous, défenseurs des droits, on est là pour rétablir les personnes dans leurs droits. Ces personnes-là qui, justement, ont des difficultés. Mais là-dessus, il y a un moment, enfin, il y a plein de personnes qui nous saisissent, mais il faut résoudre le problème au niveau du service public. C'est-à-dire, c'est pas simplement que les personnes nous saisissent en cas de difficulté d'accès aux droits. C'est comment, avec le service public, on résout le problème. Et une de nos préconisations là-dessus, c'est une présence physique, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, ça, tout ne peut pas se faire sur
un
Internet.
Contact humain.
Indispensable.
Oui, c'est très frappant parce que, comme vous le dites l'un et l'autre, on définit la précarité par la demande. En plus, il y a des droits et il y a des réponses à cette demande, mais c'est la médiation qui ne fonctionne pas toujours. Nous allons en reparler dans un instant, après ceci.
Oh,
À présent,
Frédéric Worms.
À présent, ce soir, autour de la question difficile, de quel droit la précarité, avec Claire Hédon, défenseur des droits, et avec Guillaume Leblanc, philosophe. Alors, nous parlions de la précarité, nous allons aussi parler du droit, hein, cette indignation, de quel droit cet état de fragilisation sociale dans nos sociétés. Mais aussi, Claire Hédon, la question du défenseur des droits, bien sûr, est tout à fait générale. Chacun de nous est un peu précaire au sens où, pas du tout... Tout le monde n'est pas précaire, au contraire, je pense que d'ailleurs tous les deux, Guillaume Leblanc et vous, vous critiquez aussi une conception universalisante, banale de la vulnérabilité, nous sommes tous vulnérables, etc. Mais là quand même, il y a aussi une précarisation au sens où les droits sont devenus un maquis, on ne sait pas de quel droit on peut faire valoir, et le rôle que vous occupez maintenant, la défenseur des droits, c'est un rôle crucial pour tout citoyen.
Oui, oui, c'est d'ailleurs enfin inscrit dans la Constitution, c'est une institution importante.
Depuis longtemps, c'est...
Depuis, alors ça a été créé en 2011, ouais. par une loi organique en 2008, mais ça a été la réunion de plusieurs institutions qui existaient. Le droit des enfants, du coup ça me permet de dire quel est l'ensemble du défenseur des droits. Il y avait la protection des droits des enfants, il y avait la lutte contre les discriminations, l'ancienne ALDE, le contrôle de la déontologie des forces de sécurité, la protection.
Ça rentre dans le défenseur.
Tout ça rentre dans le défenseur des droits. Donc c'est pour ça que tout un chacun peut avoir à un moment besoin du défenseur des droits. La protection des lanceurs d'alerte et l'orientation des lanceurs d'alerte. Et puis justement la relation avec les services publics, résoudre les problèmes au quotidien d'accès aux droits. On a cité pour les plus précaires l'accès aux minima sociaux, mais ça peut être aussi l'accès à Pôle emploi et justement à l'indemnisation chômage. Ça peut être faire valoir sa retraite. Ça peut être des difficultés pour justement les papiers de permis de conduire, les cartes grises. Enfin, on est saisi dans des domaines qui vraiment les liens entre l'individu et l'administration.
Et vous êtes saisi par les citoyens eux-mêmes.
Par les citoyens eux-mêmes, absolument.
Et il y a aussi des rapports généraux d'où vous saisissez vous-même les questions.
Voilà, on rend des rapports quand on voit qu'il y a un dysfonctionnement particulier.
Quelque chose qui émerge, un problème qui émerge.
La dématérialisation, par exemple. Et ben, du coup, au bout d'un moment, on rend des avis, des rapports. Et puis, on fait aussi des avis auprès du Parlement quand il y a des projets, des propositions de loi. Et puis après, c'est d'alerter aussi la société sur des dysfonctionnements. Fonctionnement qui peuvent avoir lieu.
Et alors vous-même, Guillaume Leblanc, qui travaillez beaucoup sur ces questions d'accès, de coupure et de reprise d'un lien avec le social et le politique, au fond, est-ce que pour vous, dans ce soutien qu'il faut apporter à ces personnes fragilisées, est-ce que le droit joue un rôle important dans votre analyse de ces soutiens politiques qu'il faut apporter à ces vies précaires, Guillaume Leblanc? Quelle place est-ce que vous attribuez justement au travail d'une défenseur des droits, hein, dans ces angles morts? Dans ses réponses. Est-ce que le droit est pour vous quelque chose de crucial?
Oui, je pense que le droit est forcément quelque chose de crucial dès lors qu'on essaie d'être attentif vraiment à quelque chose qui est la justice sociale. Mmh. C'est-à-dire ce qui fait justice sociale dans une forme de solidarité, dans une société, etc. Et donc c'est très très important de placer le problème de la précarité, de la pauvreté, également du point de vue du droit. D'ailleurs, dans l'action que là, nous menons collectivement avec plusieurs philosophes et ATD Quart-Monde, un séminaire de philosophie sociale que nous faisons en ce moment, depuis quelques années, avec des militants d'ATD et des alliés. Nous explorons justement cette dimension du droit, parce que c'est un des thèmes qui a justement surgi de la part des personnes qui sont confrontées directement à la pauvreté. Mais justement, ce qui est très intéressant quand on les écoute, ces personnes, c'est qu'elles ont le sentiment, elles considèrent le droit à la fois comme un recours et aussi comme un labyrinthe. Mmh. Et il faut pas effacer cette dimension labyrinthique du droit. C'est-à-dire, elles ont le sentiment que le droit n'est pas pour elles, mais pour les autres, qu'il existe une sorte de frontière invisible au fond entre les personnes qui ont droit à avoir des droits et celles qui ont le sentiment de ne pas avoir ce droit à avoir des droits. Ouais. Et même pire, ces personnes souvent ont le sentiment que le droit pourrait éventuellement presque se retourner contre elles, contre ce qu'elles possèdent déjà, précisément ce qu'elles possèdent, elles le vivent avec une telle précarité que c'est d'une fragilité extrême et que le recours à un droit est vécu à ce moment-là comme une espèce de chose ambivalente. Donc je crois que c'est très important vraiment de se battre pour démocratiser le droit, pour montrer que qu'il ne peut pas y avoir un pauvre droit pour le droit des pauvres. Ça, c'est vraiment fondamental. Et par ailleurs, je pense qu'il est aussi très important d'engager des problématiques politique de soutien aussi financier aux personnes démunies. Actuellement, on sait que...
Mais ces soutiens sont aussi des droits à des ressources, à des prestations, voilà. Finalement.
C'est inscrit dans notre constitution, des droits à un revenu minimum d'existence, c'est inscrit dans notre constitution.
Ah oui. Exactement. Et ce droit à un revenu minimum d'existence, aujourd'hui, dans le portrait social de la France de 2020, tel qu'il a été fait par l'INSEE, on voit très bien comment, justement, il est encore plus nécessaire avec la crise actuelle qui expose, avec la crise liée à la Covid-19, qui expose les plus précaires encore davantage, je dirais. Effectivement, il y a des résolutions qui vont dans ce sens-là. Il y a l'annonce qui a été faite par le Premier ministre d'un revenu jusqu'au mois de février de 900 euros, je crois, pour les chômeurs qui justement ont des ou les personnes intermittentes, etc.
Qui ont été précarisées justement.
Qui ont été précarisées par la crise actuelle. Mais le problème étant que justement il y a encore beaucoup de trous dans le filet de la protection, puisqu'il y a énormément d'étudiants qui passent de manière totalement invisible, des jeunes entre 18 et 25 ans qui ne sont pas concernés. Ce revenu devrait être étendu aussi sur toute l'année 2021, comme il est dit par beaucoup d'associations. Bref, on a, je dirais, un double travail, mais l'un va avec l'autre, de démocratisation de l'accès aux droits et en même temps de protection, justement, de soutien aux vies les plus démunies.
Alors ce qui est très frappant, on y reviendra, Guillaume Leblanc, c'est quand même, si on se permet dans un instant une question de philosophie politique aussi, il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, on aurait critiqué le droit comme outil finalement un peu factice, un peu superficiel de justice sociale. Il y avait plutôt une critique du droit. Là maintenant, le droit est quand même devenu très actif. Claire Edon, mais vous vouliez réagir aussi.
Oui, j'ai envie de réagir sur ce qu'il dit. Mais avec ça, enfin, si je reprends le mouvement ATD Quart-Monde depuis le début, c'est la question d'une atteinte au droit depuis le début. Oui. Et je trouve que c'est un mouvement qui avait du mal à se faire entendre là-dessus, justement, et que c'était une atteinte au droit. Et je trouve qu'on a avancé puisqu'on reconnaît aujourd'hui que c'est une atteinte au droit. Mais je voulais revenir là sur cette question du droit à un revenu minimum d'existence. Quand avec le RSA, il reste en fait 2 euros par jour pour se nourrir. Est-ce qu'on est dans un droit appliqué d'un revenu minimum d'existence? Et vous venez de citer, Guillaume Leblanc, le 900 euros qui est donné à ceux qui ont travaillé.
Oui, c'est ça.
Et je trouve que c'est très intéressant.
C'est pas universel.
Mais non,
universel.
Et puis c'est surtout intéressant qu'il ait été donné à 900 euros. Parce que c'est bien finalement, en fait, que le gouvernement a considéré à ce moment-là que le 900 euros, c'est le minimum vital pour vivre dignement. Et donc je trouve très intéressant parce que c'est le montant qui est demandé par énormément de gens pour que le RSA arrive à ce montant-là, parce que c'est le montant décent pour vivre dignement. Et donc, au moment où le gouvernement est confronté à des personnes qui se retrouvent sans emploi et qui ont travaillé avant, c'est bien ce revenu-là qui fixe, mais on laisse le RSA au niveau
Claire Hédon,
de 560 euros.
Avant de reposer que Guillaume Leblanc réagisse, évidemment, je voudrais quand même vous faire part de mon ignorance. Je ne savais pas que dans la Constitution française, au contraire, moi je pense que c'était très important de l'inscrire, qu'il y avait droit à un revenu minimum d'existence. Mais ce que vous nous apprenez, au fond, c'est que c'était un droit, comme certains auraient dit, formel. C'est-à-dire, il n'avait pas de contenu, il n'avait pas de montant, il ne correspondait pas à un titre effectif.
Mais c'est pareil, dans notre Constitution, il y a également le droit au logement, le droit au travail, le droit à une éducation. Il y a tous ces droits-là. Le droit à une éducation de qualité, est-ce qu'il n'est pas bafoué quand on a 100 000 jeunes qui sortent tous les ans sans aucune qualification du système scolaire? Est-ce que ce n'est pas un échec de notre système scolaire? Est-ce que ce n'est pas une atteinte aux droits de ces jeunes qui n'arrivent pas à avoir une qualification? Et donc, moi, je trouve que si on commence à raisonner en termes de droits, ça change fondamentalement la donne, parce que d'abord, ce n'est pas la faute de l'autre et de la personne en situation de précarité, c'est bien un système qui produit un non-accès aux droits, et toute la réflexion qu'on a à avoir, c'est comment on permet à ces personnes d'accéder aux droits. Permettez-moi de finir là-dessus, parce que c'est une des grandes questions qu'on se pose dans l'équipe. Mais c'est de revenir sur cette question, parce que dans l'équipe du Défenseur des droits, on est très préoccupé en fait des personnes qui ne nous saisissent pas. Oui. C'est-à-dire, on se rend bien compte qu'il y a une partie de la population qui est en grande difficulté d'accès aux droits, mais qui ne pense pas forcément à nous saisir, ou qui pense que c'est compliqué. Et ça nous interpelle beaucoup. Je pense à des personnes précaires. Il y a des personnes précaires qui, sur des difficultés d'accès au RSA, nous saisissent. Mais tous ne nous saisissent pas. Et je suis très impressionnée par les jeunes, qui, je trouve, payent un lourd tribut à la crise que nous sommes en train de traverser. Et ces jeunes-là, et qui sont victimes parfois de discrimination, ne nous saisissent pas. Pensent que, exactement ce qu'a dit Guillaume Leblanc, pensent que c'est trop compliqué. En fait, le droit, c'est pas pour eux. C'est, entre guillemets, ils subissent cette discrimination qu'ils peuvent subir, et qu'ils peuvent vivre. Et du coup, ils n'arrivent pas à se battre contre. Et moi, je me dis, comment on fait pour aller vers eux, pour qu'ils saisissent le Défenseur des droits?
Mais je trouve que vous défendez très bien les droits et le droit, Claire Hédon. Mais justement, je voudrais demander à Guillaume Leblanc de revenir sur cette question, parce que il me semble que quand il y a des droits dans un texte de droit juridique, mais qu'ils ne sont pas appliqués, ça risque de fragiliser même la confiance dans le droit, finalement, et la confiance dans la politique. Guillaume Leblanc, justement, on a l'impression que là, on entre dans un moment un peu critique pour nos démocraties, et que c'est le moment où les droits doivent devenir concrets, j'allais dire, ou jamais. C'est un vrai test aussi pour cette question des droits, pour répondre à la précarité, Guillaume Leblanc, aujourd'hui, je dirais.
Oui, je pense qu'il faut vraiment rendre les droits soutenables, c'est-à-dire leur donner un contenu explicite. Et ce contenu explicite, c'est pour ça que j'ai corrélé mon raisonnement sur les droits avec un raisonnement sur les soutiens financiers aux existences. Ça me semble absolument fondamental, dans la mesure où précisément, aujourd'hui, je dirais que être précaire, c'est souvent se trouver plongé dans un labyrinthe à la fois juridique, de recours potentiels, mais dont on sent que, comme ils sont compliqués à activer, ben finalement on ne les active pas et on crée une souffrance psychique supplémentaire par le fait de ne pas les activer, et aussi dans un labyrinthe d'aides qui sont véritablement qui ne sont pas du tout simplifiées aujourd'hui. C'est un grief qu'il faudrait, je crois, avoir en tête aujourd'hui. Qu'on voit très clairement dans le plan de relance actuel, mais qui a toute une histoire, c'est que effectivement, si on pense à tous ceux qui aujourd'hui sont sans emploi, qui ont très peu travaillé, qui sont sans ressources, qui n'ont pas les APL, qui n'ont pas le RSA, il faut pas oublier
qui étaient déjà précaires avant même,
qui étaient déjà bien précaires avant. Effectivement, il faut pas oublier que les jeunes entre 18 et 25 ans n'ont pas le RSA. Justement, on se rend compte que la question de l'accumulation des aides telle qu'elle peut être annoncée risque justement de produire une sorte d'un sentiment que le système est totalement incompréhensible, parce qu'on ajoute une aide à une autre, on empile finalement un ensemble d'aides, et on se trouve dans un véritable maquis de soutien qui finit par être alors vécu comme une souffrance supplémentaire parce qu'on n'y a pas accès, justement. Et je crois que la question de l'accessibilité aux ressources comme aux droits Et la grande question aujourd'hui précisément.
L'accès, le recours, Claire Hédon, c'est, ça envie de c'est rebondir votre élément,
que,
j'allais dire, c'est
mais
votre
oui,
question
parce que
principale.
Je voudrais revenir sur cette thèse de Clara Deville, parce que ce qu'elle montre aussi, c'est que dans cette demande de RSA, on demande aux gens d'être motivés dans leur demande. En gros, celle qui l'accueille trouve que la personne n'est pas l'air très motivée pour le faire, donc qu'est-ce que ça cache? Est-ce qu'elle frotte pas? Ou alors on va vérifier chez les gens s'ils vivent bien seuls, est-ce qu'il n'y a bien qu'une brosse à dents? C'est excessivement intrusif. Je voudrais vous...
C'est drôle, ça me rappelle quelque chose que vous racontez, Claire Hédon, c'est dans l'accès aussi à la procréation médicalement assistée, dans les sécos, on juge souvent du désir d'enfant par des attitudes extérieures. C'est-à-dire, peut-être que les gens qui le désirent sont ceux qui en parlent le moins, Claire Hédon. C'est pas forcément visible comme ça.
Comme ils ont eu peu la parole, se sentent exclus de la société, ont du mal à exprimer leurs besoins et leurs désirs. Donc effectivement, ils rentrent pas dans les codes et dans le cadre. Mm-hmm. Je voudrais vous donner aussi un exemple du jusqu'où vont ces contrôles. C'est un des délégués territoriaux en Alsace qui m'a alerté là-dessus, un de nos délégués territoriaux qui fait de la médiation préalable obligatoire, qui est une démarche intéressante qui permet d'avancer avec la médiation au lieu évidemment d'aller par exemple devant le tribunal administratif en l'occurrence. Et c'était sur des personnes qui ont le RSA à qui on a considéré que c'était de la fraude et qu'ils n'auraient pas dû avoir le RSA parce qu'ils ont eu un revenu au moment où ils ont vendu des habits simplement pour survivre, ou ils ont vendu leur voiture pour survivre. Vous vous rendez compte jusqu'où vont les contrôles et jusqu'où on va pour considérer que les gens fraudent. Moi, je rappelle ce que la Cour des comptes a dit il y a quelques années, la fraude des pauvres est une pauvre fraude. Donc, oui, il faut lutter contre la fraude, mais il y a un moment, ça contribue au non-recours et au non-accès aux droits.
Oui, je suis très frappé, moi, par le fait que l'un et l'autre, vous expliquez bien que, plus même que la fraude dont on parle beaucoup, c'est plutôt le non-recours qui est le problème. Et finalement, on se trompe peut-être de problème. Il y a un point sur lequel je voulais revenir et avoir votre avis aussi, Guillaume Leblanc, c'est cette question même de la notion de revenu, qui finalement n'est pas une aide. Revenu, ça veut dire au fond que c'est un droit justement, j'allais dire, qui est inconditionnel, c'est ce que disent certains concernant le revenu inconditionnel d'existence justement, mais surtout revenu c'est un dû finalement, c'est pas une aide qu'on donne à quelqu'un, c'est plutôt une reconnaissance d'une activité. Est-ce que vous pensez que c'est question de mots aussi l'un et l'autre, hein, mais Guillaume Leblanc peut-être là, est-ce que vous pensez que c'est important pour le soutien même des subjectivités, j'allais dire, c'est-à-dire que la façon dont on s'adresse aux gens en disant c'est un revenu qui vous est dû et non pas une aide qu'on vous condescend à vous donner. Est-ce que vous pensez que c'est important, Guillaume Leblanc ?
Je pense que le terme de revenu est vraiment fondamental si justement il n'est pas associé tout de suite à l'idée d'un revenu minimum, comme si on en faisait le minimum pour se défaire de la question justement du revenu. Je préfère l'idée d'un revenu décent, effectivement, d'abord parce que ça implique qu'une société est responsable d'une forme de décence qu'elle organise à l'intérieur de son existence sociale. Je rappelle la phrase d'un philosophe israélien, Avishai Margalit, dans La société décente, qui dit « Une société décente est une société dont les institutions n'humilient pas les gens ». Bon, ça c'est à mon sens c'est fondamental, c'est-à-dire qu'il faut précisément
un critère qui a l'air simple mais
qui est très difficile à mettre en et qui peut être très très cruel parce que effectivement et puis ce qu'il y a d'intéressant dans l'idée d'un revenu décent, c'est que l'on va rechercher ce qui rend possible cette décence, c'est-à-dire la possibilité pour une vie d'être dignement vécue. Et à ce moment-là, on va s'accorder effectivement à faire entrer dans l'idée de la vie digne d'être vécue toutes les capacités humaines qui sont centrales, et pas simplement le fait de se nourrir ou de remplir son frigo, mais même par exemple des questions aussi centrales que la possibilité de se loger d'une manière non précaire, la possibilité d'un accès au transport, la possibilité d'un accès à des services sociaux, à des services publics, entre dans la constitution même de ce que j'appellerais philosophiquement un revenu décent. Et si je peux me permettre de rajouter un point...
Et je rajouterais un accès à la culture.
Et l'accès à la culture, évidemment. Oui, voilà, c'est ça. C'est toutes les capacités qui font une vie. C'est-à-dire qu'une une vie, et c'est ce que j'aime beaucoup dans la démarche justement de Claire Hédon. Ici, c'est lorsqu'elle dit que la question de la dignité, lorsqu'elle dit qu'elle est étroitement liée à celle de l'accès aux droits, que la pauvreté n'est pas simplement un manque de revenus, mais la difficulté à faire valoir ses droits dans l'accès au travail, au logement, à l'éducation, aux soins, à la culture, justement. Mais ça me semble être un point absolument fondamental parce que c'est reconnaître que une vie est en capacité si on lui reconnaît la capacité de faire valoir toutes ses capacités d'existence, justement.
Un autre point que je trouve très important dans ce que vous venez de dire l'un et l'autre, Guillaume Leblanc et Claire Hédon, avec cette référence à la société décente, c'est que, et cet exemple que vous donniez, c'est que finalement, on s'aperçoit que ça concerne toute la société, évidemment. Une société est décente dans son ensemble ou ne l'est pas. Et finalement, ce critère que vous donniez de l'humiliation par les institutions, eh bien justement, on y reviendra dans un instant, ça n'est peut-être pas réservé aux plus précaires a priori. Peut-être que chacun d'entre nous en fait l'expérience et que c'est un des liens qui peut nous permettre aujourd'hui, dans cette crise globale que nous vivons, peut-être de refaire de la précarité, non pas une question sectorielle, mais une question générale qui concerne tout le monde. On y revient là aussi après cela.
Dieu que cette histoire finit mal. On n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal quand elle a commencé si bien. On imagine pourtant très bien voir un jour les raisons d'aimer perdues quelque part dans le temps. Mille tristesses découlent de l'instant. Alors, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Tourne ton dos contre mon dos. Que vois-tu? Je ne te vois plus. Si c'est ainsi qu'on continue, je ne donne pas cher de nos peaux. Parfois, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser.
À présent,
Frédéric Borns.
Dans le vent glacé.
À présent, ce soir, autour de la question de quel droit à la précarité, avec Claire Hédon et Guillaume Leblanc. Guillaume Leblanc qui nous propose cette chanson de Dominique A, Le courage des oiseaux. Guillaume Leblanc, est-ce qu'il y a un lien entre ce choix musical et le thème de notre discussion, les précaires, leur accès aux droits, la façon dont cela concerne tout le monde? Est-ce que c'est juste un morceau que vous aviez envie de faire résonner, ou est-ce qu'il résonne aussi avec nos questions que nous discutons ce soir?
Non, je pense qu'il résonne vraiment, parce que cette histoire qui finit mal, qui risque de mal finir, c'est l'histoire justement de la précarité. Ça risque de mal finir, c'est-à-dire que peut-être qu'un jour ou l'autre finissons-nous par nous lasser. Hein, c'est-à-dire au fond une sorte de lassitude, de résignation face à laquelle cet hymne au courage des oiseaux, au chant, à la voix qui traverse l'hiver comme ça, me semble être extrêmement importante. Et c'est peut-être un des points sur lesquels je voulais insister, c'est au fond que il me semble que la question des droits des plus démunis, elle doit être activement liée à la question, à l'autre élément qui me semble central, qui est celui des compétences des plus démunis, des compétences des plus pauvres. Justement, ce que j'apprends avec dans mon travail là avec ATD Quart Monde, c'est au fond l'idée qu'il y a, je vois qu'il y a ces compétences de ces personnes, et au lieu de voir les compétences des plus pauvres, des plus démunis, des plus précaires, on s'astreint,
on les prive aussi de ça, finalement,
à les priver de cette possibilité de faire valoir leurs compétences. J'en ai eu la preuve au moment du mouvement des Gilets jaunes, quand à partir duquel on a beaucoup insisté, à juste titre, en France et ailleurs dans le monde, sont nés tout un ensemble de mouvements contre la vie chère. Et ce mouvement contre la vie chère a été corrélé à, au fond, une forme de désir très intéressant politiquement, de retour à la sobriété, l'idée de moins dépenser, d'activer des recyclages, etc. Mais les plus démunis aujourd'hui ont des compétences incroyables.
Là-dessus, bien sûr.
Sur le recyclage des produits, sur la possibilité justement d'un usage sobre des objets environnants. Que faisons-nous de cette compétence ? Donc, je pense que c'est vraiment un volet extrêmement important, celui des compétences, et articuler les droits aux compétences, ça me semble être quelque chose de fondamental. Oui.
Alors je sais que Claire Hédon a envie de répondre, mais je me permets encore de vous glisser une question, Guillaume Leblanc, puisque on venait de parler de cette chanson. Je voulais évoquer, et Claire Hédon y réagira aussi sans doute, dans votre dernier livre sur les vies minuscules, l'insurrection des vies minuscules, vous mettez en avant, non pas les oiseaux ou les chanteurs, mais la figure de Charlot, finalement. Charlot qui, selon vous, est au principe même de la démocratie et qui finalement incarne, justement, fait resplendir, je dirais même, les compétences dont vous parlez, avec ses chaussures trouées, sa canne, et en même temps une compétence, d'ailleurs aussi une compétence morale, une compétence politique, une compétence humaine extraordinaire. Guillaume Leblanc, votre choix de faire de Charlot comme ça le personnage qui incarne cette précarité qui l'a fait briller finalement dans les yeux de tous les enfants au moins, est-ce que c'était un choix fort dans ce dernier livre, Guillaume Leblanc?
Oui, c'est exactement ça. C'est que Charlot, c'est celui qui arrive à survivre malgré tout. C'est celui qui n'est jamais à sa place et qui parvient à déplacer le monde autour de lui par le fait qu'il n'est pas à sa place. C'est au fond un être de la survie, mais qui arrive à loger toute la vie dans la survie. Et donc c'est quelqu'un qui remet en question cette frontière morale, la sociale, économique, politique qui nous divise tellement entre la vie et la survie. Il faut redonner, je pense, une sorte de dignité à la capacité de vie pleine qui est en jeu justement dans la survie, et je crois que le personnage de Charlot y contribue totalement quand on voit la métaphore de Thanksgiving, comment il mange sa chaussure au lieu de la dinde, de Noël. On a là une espèce de système de débrouille, mais qui n'est pas justement le fait d'une pauvre vie, qui est le fait d'une vie qui parvient à se réaliser malgré tout, justement.
Oui, ce Charlot qui circule dans l'imaginaire, malgré tout, de tout le monde, Claire Hédon. Est-ce que pour vous aussi, cette question des compétences...
Oui. Je trouve c'est très intéressant parce qu'on a tendance à définir, alors que ce soit des personnes en situation précaire ou en situation de handicap, par leur manque et pas par leurs compétences. Et c'est vrai que ce changement de regard, il permet aussi pour les personnes elles-mêmes de changer de regard sur elles-mêmes et du coup aussi de combattre. Mais je trouve que oui, il y a une... Parce que c'est... Et puis, ce serait plus rassurant pour nous tous, mais parce que j'essaye de défendre cette idée que on y a tous intérêt à une société.
Cette question-là concerne tout le monde.
Mais oui, et puis on y a intérêt. C'est pas vrai que ça nous dérange pas la pauvreté. C'est pas vrai que ça nous dérange pas les discriminations. C'est pas vrai que ça nous dérange pas que des gens n'aient pas accès à leurs droits, parce que ça mine notre confiance dans la société. Et moi, je trouve qu'une partie de mon travail, c'est de rétablir les personnes dans leurs droits, mais aussi du coup de redonner confiance dans la démocratie, parce que c'est par cet accès aux droits, par cette égalité, qu'on redonne confiance dans la démocratie. Et pour l'instant, je trouve qu'elle a des coups dans l'aile, notre démocratie.
Là où vous êtes justement, Claire Hédon, dans ce poste très particulier d'action, mais aussi d'observation, finalement, votre diagnostic, on a l'impression qu'il y a un peu d'inquiétude, évidemment, peut-être même encore plus en ce moment de pandémie que quand vous avez pris ce poste, ou justement vous l'avez pris avec la pandémie, donc c'est quand même très particulier. Il y a de l'inquiétude, mais on a l'impression qu'il y a aussi quand même, justement, en tout cas des pistes pour rétablir la confiance. Elle ne s'est pas gagnée, mais vous avez des orientations.
Quand. Bah oui, mais surtout si j'y crois pas, je prends pas un poste comme celui-là. Moi, je crois qu'on peut rétablir les gens dans leurs droits. Oui. Je pense qu'on peut rétablir la confiance. Mais c'est vrai que nos 520 délégués territoriaux et puis toutes les réclamations qu'on a fait qu'on est une vraie vigie du dysfonctionnement. Alors évidemment, moi, je vois plutôt ce qui ne va pas. Ouais. Des dysfonctionnements de notre société, de notre démocratie. Et du coup, on peut très vite alerter quand même sur ce qui ne va pas. Et après, c'est notre capacité à faire changer et à ce que ce soit pas simplement dire, ben voilà, à tel endroit, ça ne fonctionne pas, mais comment on fait pour que ça fonctionne? Et entre autres, dans nos rapports avec les services publics. Et c'est particulièrement important. Mais aussi, et parce qu'il en est question en ce moment, dans la lutte contre les discriminations. C'est la lutte contre les discriminations et particulièrement la discrimination due à l'origine. C'est vraiment un de mes combats pour les 6 années qui viennent. Je pense qu'il faut qu'on progresse parce que c'est aussi là-dessus qu'on redonnera confiance.
Oui, j'ai été frappé par finalement, quand vous avez fait la liste des sujets dont vous avez plus particulièrement la charge, Claire Hédon, il y a quand même un certain nombre, je dirais pas d'angles morts, mais finalement un certain nombre de lieux tout à fait centraux et marginaux de notre société, les enfants, les violences policières, la déontologie policière, enfin, qui n'est pas d'ailleurs, qui concerne tout le monde, mais qui n'est pas fatalement un problème, qui peut là aussi être rétabli, je pense, sans doute par des mesures fortes, mais simples, les discriminations toujours, les réfugiés aussi, Claire Hédon.
Je suis allée à Calais, je vais beaucoup sur le terrain, je viens du terrain et j'ai envie d'aller sur le terrain parce que c'est comme ça qu'on voit aussi ce qui est... Et j'ai été très impressionnée des atteintes aux droits fondamentaux. Et je suis très choquée de ce qu'on fait vivre aux exilés. On les rend, on cherche à les rendre invisibles. À Calais, il y a des expulsions toutes les 48 heures, un jour sur deux, on expulse les migrants. Ce qui s'est passé, place de la République. Alors, nous sommes saisis, donc je ne peux pas faire de commentaires, mais les images qu'on a vues qui tournent à la traque à l'homme me choquent horriblement. C'est une atteinte à nos droits fondamentaux. Enfin, il y a un certain nombre de choses comme le droit à l'hébergement qui est inscrit dans notre Constitution. Comment on se permet de ne pas l'appliquer au moment où on parle autant des valeurs de la République? La fraternité.
La fraternité,
elle est aussi sur le fronton de nos mairies, liberté, égalité, fraternité. On en fait quoi de la fraternité?
Ce qui est curieux, il me semble, c'est qu'il y a une sorte de climat public, forcément, qui autorise ces angles morts, ces principes qui ne sont pas mis en action.
Pardon, Frédéric, je n'y crois pas à ça.
Si, il y a quand même un climat d'idéologie générale.
Écoutez, vous avez vu la dernière enquête Ipsos sur les préoccupations des Français en ce moment? Le Covid, le coût de la vie, le chômage, les questions environnementales, les questions de sécurité et de migrants arrivent tout enfin. On instrumentalise des questions, c'est pas vrai que c'est la préoccupation première.
Non, je comprends, je parlais pas de la sécurité justement, je parlais plutôt, comment se fait-il que des injustices n'affectent plus publiquement l'esprit public?
Il y a encore des gens que ça choque
quand même. Vous me rassurez, moi j'étais quand même en train de penser que finalement ce dont on parle là n'est plus la priorité dans l'espace public, mais vous me rassurez.
Non mais ça l'est pas assez, si, non mais je suis d'accord en fait avec vous, ça ne l'est pas assez.
Parce qu'il y avait des indignations plus fréquentes, peut-être plus audibles il y a quelque temps.
Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Je suis convaincue d'ailleurs, puisqu'on parle beaucoup précarité, c'est que si l'ensemble de la société était convaincue qu'il fallait éliminer la grande pauvreté, il n'y aurait plus de pauvreté et nos politiques prendraient les bonnes décisions.
Donc c'est ça que je voulais dire.
Sur le fond, je suis quand même d'accord avec
les
vous.
Les idées mènent le monde et ces idées-là ne mènent peut-être plus assez. Guillaume Leblanc, vous avez aussi écrit avec Fabienne Brugère un livre sur l'hospitalité, justement, en lien avec ce travail sur les vies fragilisées dans nos sociétés. Vous aussi, vous pensez finalement que ce ne sont pas des sujets locaux, justement, ces absences de lieux, justement, ne sont pas locales, elles affectent finalement toute notre représentation du social quand on supporte des atteintes telles que celles que Claire Hédon vient de décrire.
Oui, parce qu'on se présente, en réalité, c'est quand on va effectivement dans pas mal d'endroits en Europe, comme on l'avait fait pour ce livre, à Calais et ailleurs, on se rend compte que une société qui est composée est composée d'espaces dont certains ne sont plus considérés, ne sont même plus appréhendés comme des lieux véritablement sociaux. Et moi, je donne une anecdote qui m'a vraiment frappé quand je suis allé à Calais la première fois, c'est que effectivement, vous n'avez aucune adresse pour la jungle de Calais et même pour le camp de Grande-Synthe, par exemple, vous n'avez aucune adresse. Ça veut dire que si vous mettez sur votre GPS Calais la jungle, vous ne trouverez rien. Ça veut dire qu'il y a des lieux.
La poste ne peut pas apporter un courrier.
Non, ça veut dire fondamentalement qu'il y a des lieux, si vous voulez, dans lesquels on vit sans adresse. Est-ce que c'est acceptable aujourd'hui, en 2020, de pouvoir vivre dans des lieux sans adresse? Quand on est sans adresse, ça signifie que sa place locale dans le monde n'est plus du tout appréhendée, précisément. C'est comme un peu, si vous voulez...
C'est une disparition, finalement. C'est comme dans ce livre qui s'appelle « Parti sans laisser d'adresse ».
C'est une façon de nier la vie.
Les êtres disparus.
C'est une façon de nier la vie et c'est une façon de nier le nom d'une personne en tant que personne vivante. C'est un peu comme si, au fond, quand on naissait, supposons, on vient de naître, on fait cette fiction, on vient de naître et on ne reçoit pas de nom à la naissance. Qu'est-ce que ce serait qu'une vie naissante sans nom? C'est exactement la même chose quand on est sans adresse. Comment peut-on exister, avoir un nom propre, avec son histoire, si tout cela est nié par le fait que le lieu où l'on vit est au fond un lieu fantomatique? Et c'est ça, c'est vraiment, c'est quand même, il y a dans la société actuelle beaucoup de ces lieux-là, avec des adresses extrêmement précaires, avec des adresses peu lisibles. Et donc, il faut effectivement repenser aussi les ancrages spatiaux des existences. Une existence ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, elle ne vit pas sans propriété sociale. Elle a besoin d'avoir des propriétés qui la tiennent dans le dos pour pouvoir exister. Et nous sommes tellement habitués à la fable de l'individu, de l'individualisme qui existe par lui-même,
tout seul,
que nous ne savons même plus que l'individu n'existe que par les liens, les relations et les propriétés sociales qui le soutiennent.
Tout à fait, et des choses très concrètes, Claire.
Donc, le droit,
le téléphone portable, des droits qui se matérialisent finalement dans
Et puis, le droit à la protection de la dignité humaine fait partie de notre constitution. On a une boussole, quand même, dans notre constitution. Il y a des choses qui sont écrites et qui sont importantes et auxquelles il faut pouvoir se référer. Et c'est bien de signer des conventions. Enfin, la Convention européenne des droits de l'homme, elle dit le droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants. Ce qu'on fait en ce moment aux exilés en les chassant, comme ça se passe en ce moment à Calais et en région parisienne, ce sont une atteinte, ce sont des traitements inhumains et dégradants, ce sont une atteinte aux droits de l'homme.
Et comment se fait-il, encore une fois, Claire Edon, vous rappelez des principes qui sont dans la Constitution, l'Europe est aussi un espace avec des principes et des règles, il y a même des déclarations universelles. Ce que je voulais dire, en parlant du climat de l'esprit public, c'est quand même entre ces principes et leur mise en œuvre, donc il y a les questions d'accès dont vous parliez, il y a aussi, peut-être en une minute chacun, vraiment même à peine, des questions de débat public, justement, tel que ce qu'on est en train de faire, mais finalement, un débat public là-dessus, ça vous paraît important, Claire?
Oui, oui. Alors, moi, je crois beaucoup à la séparation des pouvoirs et à l'équilibre entre le gouvernement, le parlement et le judiciaire. Et je pense que des débats sur ces questions-là sont absolument capitales parce que il y a aussi des études qui montrent que les gens sont préoccupés de ces questions de pauvreté. Donc, il y a moyen d'agir et vraiment raisonner en termes de droits, ça rassure tout le monde parce qu'on se dit, si on protège les droits de tous, on se dit, mais moi aussi, je suis protégé.
Chacun se sent plus...
Et ben voilà, et donc c'est à ça que sert le défenseur des droits.
C'est à ça que vous servez. Merci Claire Edon, et de nous sortir d'une incertitude qui se généralise aujourd'hui. Guillaume Leblanc, en 30 secondes vraiment, votre rapport à ce débat public, justement, aussi en tant qu'universitaire, je dirais, en tant que chercheur, cette nécessité de nourrir les opinions, de nourrir les idées.
Oui. Mais je pense qu'il faut vraiment une vraie révolution copernicienne, c'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui instaurer enfin un, appelons comme on le veut, parlement des invisibles comme Rosan Vallon l'a établi, un parlement des inaudibles comme moi je l'appelle de mes voeux, mais il faut créer une instance de compétence des personnes dont on dit qu'elles sont sans compétence. Et il faut que cette assemblée-là devienne aujourd'hui toute sa part dans la constitution justement de notre politique nationale justement.
Alors merci à vous deux d'avoir si bien défendu les droits et ceux qui en sont les sujets.
Merci.
Merci infiniment. À présent, ce soir, c'était autour de la question « De quel droit la précarité ?» avec Claire Edon, la défenseur, notre défenseur des droits en France aujourd'hui, Guillaume Leblanc, professeur de philosophie à l'Université de Paris, avec et grâce aussi à Cindy Le Grumelec, Yanis Djoudad, Zora Vignet, Catherine Donnet, Sandrine Chaperon et aussi Anne-Pascale Desvignes et Frédéric Worms. Je vous retrouve vendredi prochain à la même heure et sur la même antenne. À bientôt.